Merci de ce classique aussi du Camp Brochet, Christ est roi. C'est un chant qu'on fait souvent. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous donne un petit topo rapide du Camp Brochet. Je reviendrai au printemps pour vous en parler plus. Mais vous avez eu une lettre de nouvelles, j'imagine, que j'ai envoyée, du moins, je pense qu'elle est là-bas. On est rendu où dans notre... Ouais, mais moi... Good. Alors, je vous parle un peu du projet qui nous fait vibrer, là, mais qui anime énormément l'équipe depuis plusieurs années, qui arrive à terme. C'est la construction de notre nouveau bâtiment de rencontre, notre nouvelle chapelle. L'été passé, on a commencé à détruire, à débâtir le vieux bâtiment. Question de montrer nos intentions, et ça s'est poursuivi à l'automne avec l'appel mécanique. On a mis à terre en septembre notre bâtiment au complet pour arriver en octobre avec la construction des fondations du nouveau bâtiment. Alors ça, c'est au mois d'octobre. Actuellement, c'est remblayé et on est rendu là. C'est remblayé, on attend le printemps, le 23 avril. Les murs préfab vont arriver. Dieu voulant, c'est la date fixée. Une bâtisse qui va être utilisable l'été prochain. 4 murs, un toit, des portes, des fenêtres, plancher. Alors, on est à peu près ce qu'on avait avant, mais avec évidemment beaucoup plus grand et beaucoup plus fonctionnel pour nous. La suite de l'histoire, ça va suivre selon la volonté de Dieu. Je peux vous donner quelques chiffres aujourd'hui. On a déjà 320 000 de déboursés dans ce projet-là. Il y a 20 000 piastres là-dedans qui sont des dons. Vous aviez une pelle mécanique tantôt qui creusait, là. C'est quelqu'un qui nous l'a prêté. Il y a énormément de gens qui nous aident dans ce projet-là. Oui, il y a de l'argent, mais il y a beaucoup de temps et de prêts mécaniques, de prêts d'équipement. On a besoin... On l'a, c'est-à-dire pour ce printemps, la coquille, le toit, tout ça, les fenestrations, là, c'est environ 300 000. On l'a dans le compte de banque, on est capable d'avancer, il n'y a pas de problème. Puis pour la suite, on va voir comment que ça va aller, mais on est prêt à étirer notre construction sur un an et demi, sans problème. On pourrait aller facilement en 2026. Pour terminer à l'automne 2026. C'est un peu mon planning présentement dans ma tête, là. Donc, on s'accumule de l'argent, puis on a des donateurs qui sont importants, c'est le fun. Fait qu'on arrive à... Ça devrait fonctionner. Alors, avec le Seigneur, on s'attend à un beau résultat final de ce projet. Alors, merci beaucoup pour votre contribution. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. On n'a pas encore fait appel à beaucoup de bénévoles dans ce projet-là, parce qu'on jusqu'à date, on le gère à l'équipe interne, avec notre équipe de bénévoles au Camp Brochet, les gars surtout du Saguenay. Puis on a donné ça à contrat aussi. La fondation, là, c'est pas nous autres qui a fait ça, là. C'est un contracteur. L'érection de la bâtisse, ça va être un contracteur spécialisé aussi. Donc, on donne des mandats, puis on va se garder de l'ouvrage. Comme tout ce qui touche les travaux d'excavation, c'est toutes nous autres qui l'ont fait, avec nos équipes, avec des pelles mécaniques qu'on emprunte et ça. Donc ça, on est capable de le faire au Saguenay avec les gars qui sont là. Mais à un moment donné, surtout dans la finition intérieure, des choses comme ça, on va faire appel à nos bénévoles. Donc, surveillez-vous, je vais vous relancer. Merci beaucoup pour, comme j'ai dit, pour votre soutien, votre prière dans ce projet-là. C'est un projet qui est drôlement important. Je pourrais en parler pendant longtemps, là, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous. Puis on voit comment le Seigneur dirige les choses. Là. C'est très animant d'être impliqué dans ce projet-là. Fermons le parenthèse Camp Brochet. On va parler d'environ 35 minutes d'un texte dans Genèse, chapitre 4. L'histoire de Caïn et Abel. Vous savez, quand on a... qui a des enfants ici? Pas mal de monde qui ont des enfants. Même s'ils sont vieux, là. Hein, on a tous des enfants. Beaucoup. On veut toujours le mieux pour nos enfants. On veut que ça marche bien. On veut qu'ils réussissent leur vie. On veut qu'ils suivent le Seigneur. Je suis sûr que c'est vos prières. Mais malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça. Ils prennent des décisions. La vie fait son œuvre. Ils font leur chemin dans cette vie-là. C'est un peu l'histoire de ce qu'on voit ce matin avec Caïn et Abel. Donc, je vous invite dans le chapitre 4 de Genèse. Et on va lire premièrement les 15 premiers versets. Je lis dans Second 21, donc un peu différent des fois. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi à dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je la gardienne de mon frère? » Dieu dit alors, « Que fais-tu? Qu'as-tu fait, pardon? Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Alors, une histoire assez triste, évidemment, à la mort de Caïn. Faut-tu que tu me repartes à chaque fois? OK. Alors, une histoire assez triste, et j'aimerais qu'on la regarde ce matin autour des personnages qu'on voit, donc surtout un dialogue entre Caïn et l'Éternel lui-même qui l'interpelle. Donc, on s'intéresse premièrement à Caïn. Et Caïn débute avec, je trouve, un début prometteur. Je vous invite à trois points qui m'ont frappé. Premièrement, la foi de cette femme, la foi de Ève, la foi des parents. Je pense que tout le monde a une connaissance assez bien de ces passages-là. Ève et Adam ont une relation conjugale. Et ils font reculer, en faisant ça, le jugement qui pèse sur eux. Eux autres, là, le péché qui est rentré dans leur vie, au chapitre 3, OK, a bousillé toute leur histoire de couple. Tout allait bien avant. Ils étaient unis devant Dieu, sans honte. À partir du moment où le péché est rentré dans leur vie, la honte est arrivée. La désunion entre le couple est arrivée. « Hey, la femme que tu as mise aux côtés de moi, c'est elle qui m'a donné un fruit, le fruit défendu. » Chacun s'accuse. Des désirs malsains, tes désirs se porteront vers ton mari. La douleur de l'enfantement. Toutes ces choses sont arrivées à cause du péché. C'est venu perturber leur relation. Néanmoins, ce qu'on voit au chapitre 4, verset 1, c'est qu'ils forment toujours une seule chair. Ils sont ensemble et ils désirent avoir un enfant. Ils répondent de cette façon-là à l'appel initial de Dieu qui est quoi? Allez et fécondez toute la terre. Remplissez la terre. Ils répondent à l'appel de Dieu. Ils obéissent à Dieu. C'est un acte de foi, ça. Oui, il y a eu la honte de se retrouver nu après la chute, mais ils ne sont pas restés dans la honte. Ils ont cru aux promesses de Dieu. Ils se sont levés pour lui. Et cette foi se manifeste aussi dans le nom qui est donné à Caïn. Il y a une twist dans le nom de Caïn qu'on ne voit pas dans nos Bibles en français, mais en hébreu, le nom Caïn, sonne comme, donc à la même prononciation, que le verbe créer. C'est comme si Ève, quand elle voit Caïn, puis c'est assez intéressant, même en français on peut le voir, j'ai créé un fils avec l'aide de Dieu. Donc l'acte créationnel qu'elle fait, avec, en mettant au monde Caïn, elle l'attribue à Dieu, avec l'aide de Dieu. Puis elle va lui donner le nom création. Donc, elle crée avec l'aide de Dieu. C'est un acte créationnel. C'est comme si Caïn est considéré comme l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, les emplois qui cherchent aussi à honorer l'appel à la domination qui a été lancé sur les enfants. Dominer la terre. Qu'est-ce qu'Abel va faire? Il va être un berger. Il va prendre soin des animaux. Il va en faire des troupeaux, s'occuper d'eux, les soumettre, les apprivoiser. Caïn, malgré ce qui est arrivé, malgré le jugement qui est arrivé sur son père, le travail que tu vas faire va être difficile. Bien, lui, il dit, je continue, parce que bon, c'est Dieu qui nous l'a donné, ce travail-là. Je vais être un cultivateur comme mon père. Donc, l'appel à la domination chez les deux enfants est à l'œuvre, se manifeste. Autre chose aussi qu'on peut voir de positif, c'est qu'ils ont une conscience de Dieu. Ils ont quitté le jardin d'Éden, mais ils se souviennent de Dieu, ils se souviennent de l'appel. Ils le font dans cette conscience, se manifeste dans notre histoire comment? En faisant une offrande, en s'arrêtant et en faisant une offrande à Dieu. Puis là, j'aimerais faire une parenthèse. Quand on regarde les sacrifices de Caïn et Abel, je sais, Sainte-Marie de Beauce, à quoi vous pensez, on se met tout de suite à comparer les deux sacrifices. On pense, évidemment, ces sacrifices au travers de notre lentille du Nouveau Testament. Puis c'est pas faux de penser comme ça. On le voit, nous, par rapport à le Nouveau Testament, au type et toutes les images qu'on peut y retrouver. On voit comment le sang a coulé dès le jardin d'Éden, lorsque l'Éternel a tué un animal pour couvrir, mettre une peau, un habit sur les parents, sur Adam et Ève. Le sang a déjà coulé. Le sang qui se répète évidemment dans les sacrifices de l'Ancien Testament et qui pointe vers celui du Seigneur Jésus lorsqu'il est mort à la croix. Alors ça, c'est tout est vrai. Puis on a de l'autre côté Caïn avec son sacrifice du travail de la terre, hein? Des œuvres, du travail personnel qui nous parle de la religion, des œuvres mortes. Alors oui, ça c'est vrai. Mais j'aimerais ça ce matin qu'on prenne quelques minutes pour regarder ce texte-là. Premièrement, comme il est écrit, pour le texte lui-même. Parce que ce sont deux sacrifices qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Le sacrifice de Caïn n'est pas sans valeur aux yeux de Dieu. Quels sont les deux premiers sacrifices du Lévitique? Le premier, l'Holocauste. Des animaux qui sont morts en offrande à Dieu. Le deuxième, fleur de farine, le sacrifice végétal. Alors, les deux sont honorables devant Dieu. Ils font partie des sacrifices du Lévitique. Dans le texte en hébreu, il y a un mot qui définit ces sacrifices et les deux sacrifices sont définis par le même mot. C'est un sacrifice qui est acceptable devant Dieu, une offrande acceptable. comme le code lévitique. On retrouve les mêmes mots. Mais il y a certainement un problème, parce que tout dérape après. Hein? Il y a certainement un problème dans ces sacrifices. Et on arrive maintenant au chemin de l'égarement, ce qui va nous amener à parler beaucoup de Caïn. La façon que le texte est écrit met beaucoup d'emphase en hébreu sur le travail que fait Abel. Sur la, tu sais, vous connaissez l'expression « se fendre en quatre » là? Bien, Abel, il s'est fendu en quatre pour offrir son sacrifice à Dieu. Il n'a pas fait, il a pris des animaux, oui, il n'a pas pris n'importe quel animal. En français, on dit, au verset 4, « Il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » On pourrait plutôt lire qu'il a pris les premiers-nés, les plus gras de son troupeau, les plus beaux, les meilleurs, celui avec lequel il avait travaillé pour en prendre soin. C'est ça qu'il fait. Donc, Abel a pris à cœur son sacrifice. Il le fait avec attention, avec amour pour son Dieu. Tandis que ce n'est pas la même chose qui est fait, qui est dit pour celui de Caïn. Caïn a fait un sacrifice quelconque. Il a pris ce qui passait par la main. Donc, ce n'est pas comme tel l'objet de l'offrande qui est problématique, mais l'intention et le cœur de celui qui le donne. Puis on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Je vous mets une référence de l'Ancien Testament, par contre, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. À quoi s'intéresse Dieu? À quoi s'intéresse l'Éternel? À notre cœur, à nos intentions, à nos motifs, plus que l'objet lui-même du sacrifice. Puis c'est exactement ça que Abel, qui fait la différence fondamentale, on pourrait dire, entre le sacrifice d'Abel et le sacrifice de Caïn. On va en parler beaucoup. Donc, le texte ne définit pas pourquoi exactement Dieu choisit l'un ou l'autre. Il n'y a rien qui est dit là-dessus. Il dit qu'il a agréé celui d'Abel, mais il n'a pas agréé celui de Caïn. Alors, le problème n'est pas tant dans le sacrifice, mais dans Caïn lui-même. La façon dont Caïn aussi réagit avec mépris au manque de considération que Dieu lui porte, Dieu porte à son offrande, est une trajectoire, une ligne qui va se répéter dans les Écritures. Elle introduit un mode de vie qui est régi par les circonstances et par le péché. On fait des choix qui nous amènent à nous éloigner de Dieu parce qu'on est frustré, parce qu'on est orgueilleux. C'est ça qui va se passer. C'est une voie d'égarement, comme on retrouve dans l'épître de Jude. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. » Ils se sont jetés dans l'égarement. C'est ça le chemin que Caïn nous montre, qui prend et qui se répète dans l'histoire. Puis d'ailleurs, l'intervention que Dieu va faire, que l'Éternel va faire, pointe directement sur le cœur de Caïn. Il pointe vers son orgueil, sa jalousie, le manque de considération qu'il a reçu. Donc, il ne perd pas de temps en conjoncture ni en écoute. Il va droit au problème. Et il parle, je reprends dans mes mots le verset 7 pour qu'on le comprenne encore mieux. « Tu es encore à l'étape. » C'est ça qu'il lui dit en fin de compte à Caïn. « Tu es encore à l'étape des sentiments. Mais fais attention à ton attitude, car ça va t'amener à commettre des actes répréhensibles. Mais tu peux changer d'attitude. Tu peux te repentir, c'est ça l'idée, et revenir vers moi. » L'option est encore là. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, que tout est perdu. Tu peux revenir à moi. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est à ta porte. Il est sur le point de te submerger. Il va prendre possession de toi. C'est ça que ça veut dire. Il va te sauter dessus. Puis dans l'hébreu, c'est encore là la même chose. Les textes hébraïques vont parler d'un démon. Le péché est comme un démon à la porte. C'est ça que l'idée qu'on souligne. Puis c'est une idée qui est biblique, ça. Chapitre 3, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu comme un démon capturer, en guillemets, Adam et Ève, hein, en faisant rentrer le péché. Pierre va parler aussi de la même chose. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, prêt à sauter sur vous, hein, comme une proie. Alors, on a cette idée-là que le péché est à ta porte, prêt à sauter sur toi. Peu importe d'ailleurs si la tentation vient de Satan ou de notre chair, il est clair que depuis la chute, nous sommes tous portés vers le péché. Et on doit faire attention à ça. C'est un avertissement pour nous, plus vieux, pour les jeunes, pour les femmes, les enfants, les hommes, pour tout le monde. Et vitement, comment éviter de tomber dans ce piège-là, de lutter contre ce lion rugissant qui rôde, qui veut nous sauter dessus. J'en ai mis quelques-uns à l'écran. En lisant, en méditant la parole de Dieu, en portant une attention particulière sur ce qui entre dans notre cœur, par les yeux, par l'écoute, on ne fait pas assez attention à ça. On se met des affaires devant nos yeux, et je suis un de ceux aussi. On est trop... On manque de sensibilité à ça. Ma femme, elle me le dit tout le temps. En ayant des amis solides dans la foi, combien de jeunes ont résisté à la tentation parce qu'ils avaient des amis solides qui les ont encouragés dans leur foi, dans leur marche chrétienne. En gardant une communion étroite avec le corps de Christ, l'Assemblée, les bons amis chrétiens, en le servant, vous voulez lutter contre le diable? Servez Dieu. Impliquez-vous dans des ministères. Gardez-vous actifs pour lui. C'est une clé, ça. Et la dernière, en contrôlant nos émotions. Un des plus grands défis maintenant chez les jeunes, peut-être aussi les plus vieux, parce que ça se présente maintenant chez les jeunes adultes, c'est de contrôler ses émotions. Ne pas être animé, emporté, dirigé par nos sentiments. Je n'ai pas ce que je veux. C'est ça qu'Aïn fait, là. Il est frustré, il fait une crise, OK? Il fait une crise de bacon. Il est frustré de ne pas avoir reçu l'approbation de Dieu. C'est comme ça qu'il réagit. Et ça va l'amener, évidemment, dans notre histoire, jusqu'à la mort de son frère. Alors, les sentiments, les émotions, ne pensez pas que, et je ne dis pas que les émotions sont mauvaises, mais il ne faut pas être dirigé par nos émotions. C'est une nuance. OK? Aujourd'hui, si je n'ai pas ce que je veux, je laisse tout cela. Hein? Je m'en vais. J'abandonne. Si ça ne fait pas mon affaire dans l'Église, je m'en vais. Si ça ne fait pas mon affaire à job, je m'en vais. Si ça ne fait pas mon affaire avec ma femme, je m'en vais. Je me laisse diriger par mes émotions. Alors, faisons attention à ça. Deuxième point. Le chemin maintenant de la mort. On a vu que ça avait bien commencé. Après ça, on a vu qu'il y avait un chemin d'égarement, mais ce chemin d'égarement, évidemment, il amène à la mort. C'est la fin de notre texte qu'on a lu ce matin. Donc, malheureusement pour Caïn, cet avertissement qu'on vient de voir n'a pas été suivi. Caïn va dire à son frère, « Allons dans le champ, viens avec moi. » Et lorsqu'il était dans le champ, il se jette sur lui et il le tue. Caïn choisit la voie de la mort en tuant délibérément son frère. C'est un meurtre prémédité, intentionnel. Il n'y a pas, c'est pas arrivé sous, oui, c'est le coup de l'émotion, certainement, mais il y avait pensé à son affaire. Il dit, allons dans le champ. Et là, il va le tuer. On vit dans un, aujourd'hui, en 2025, dans un, je parlais tantôt de ce qu'on pouvait mettre devant nos yeux, on voit des meurtres avec toutes les émissions de télé à tour de bras. Le meurtre, on ouvre le journal, les nouvelles, coup de couteau, peu importe. Violence. Beaucoup, beaucoup. dans nos émissions de télé. Puis on est insensible à ça. Mais ici, les amis, là, on ne peut pas lire ça sans être insensible. Si on est insensible à ce meurtre-là de Caïn et Abel, on a un problème. On est au début de l'histoire de l'humanité. Deux personnes qui ont encore des relations avec Dieu, Dieu leur parle. Hey, Dieu leur parle. Vont faire ça. Caïn va tuer son frère. Ça aurait dû être les parents qui meurent en premier. On sait ça. On n'est pas fait pour vivre après la mort de nos enfants. On doit partir normalement avant. Mais pour Adam et Ève, quelle tristesse de voir que l'enfant avec lequel ils avaient la foi que Dieu pourrait répondre aux promesses de 3:15, chapitre 3, verset 15, qui est quoi? Tu vas avoir une descendance qui va écraser la tête du serpent. Ève, elle l'a dans la tête, ça. Elle l'a dans la tête parce qu'elle l'a dit au premier verset. J'ai créé un fils avec l'aide de l'Éternel. Elle a dans sa tête que le fils qu'elle a eu est peut-être l'objet de la bénédiction qui va écraser la tête du serpent. Puis là, il est en train de tout mettre ça de côté. Il a été emporté par le péché, par ses sentiments, et il a tué son frère. Donc, derrière cette action-là, l'action qui est portée, c'est la haine qu'il porte envers son frère. C'est la haine aussi que Caïn a envers son Dieu. Caïn n'a pas seulement une haine envers son frère, il l'aime, il n'aime pas, il a une haine, oui, envers son Dieu. C'est pas vrai que je vais t'écouter. Tu me dis de faire attention. No way. Pas question. Caïn est tellement furieux que Dieu ait rejeté son offrande qu'il va à l'encontre du plan de Dieu en tuant la personne, l'enfant mâle, par lequel Dieu aurait pu accomplir la promesse de Genèse 3:15. C'est vraiment une guerre entre Satan et Dieu. Et Caïn a pris le côté, le bord de Satan. Il a choisi de servir le mal plutôt que le bien. Il obéit donc au serpent. Et ce sera une manifestation de la guerre qui va avoir jusqu'à ce que la descendance de la femme écrase officiellement la tête du serpent avec Jésus-Christ. L'intervention de l'Éternel qui va suivre va nous éclairer aussi sur le cœur de Caïn. Le Seigneur va lui poser une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est une question dont on connaît la réponse. Où est ton frère? L'Éternel sait très bien où est le frère, où est son frère Abel. Il sait très bien ce qui s'est passé. Le Seigneur le savait, comme le verset 10 va le préciser. Mais qu'est-ce qu'il veut, l'Éternel? C'est chercher à avoir une confession, chercher à avoir une repentance de la part de Caïn. Et on voit qu'est-ce que Caïn lui répond. Suis-je le gardien de mon frère? Quel mépris de la vie! Il a non seulement aucun remords, mais il est conscient qu'il a fait délibérément ce meurtre. Suis-je la gardienne de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es le gardien de ton frère. Aujourd'hui, nous, là, en 2025, à Sainte-Marie-de-Beauce, au Québec, est-ce qu'on est conscient que nous sommes le gardien de nos frères et de nos sœurs? Où on vit plutôt dans l'indifférence, dans l'isolement, dans l'égoïsme. Puis je sais qu'il y a une limite à être le gardien de notre frère. Il faut se mêler de nos affaires, là. Je ne dis pas de vous occuper des affaires des autres. Mais on peut avoir de l'intérêt pour les autres. On peut avoir de l'attention. Vous avez parlé d'évangélisation. C'est ça, avoir un souci des autres. De penser à leur éternité. Où est-ce qu'ils s'en vont? De penser à nos personnes plus âgées dans l'Église, comme nos plus jeunes. Est-ce qu'on s'occupe bien d'eux? Est-ce qu'on prend soin d'eux? Ou on prend juste à notre petite gang et on fait nos petites affaires ensemble? Puis je pourrais étendre la communauté autour de nous. Oui, il faut avoir un œil dessus, il faut avoir une sensibilité. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes le gardien de nos frères. Donc, Caïn, qui a un mépris de la vie, a aussi un mépris de Dieu. Et les conséquences vont être terribles pour Caïn et sa descendance. Je les mets rapidement. Il est chassé du sol maudit, en étant maudit lui-même. Hein, le seul qui est maudit, qui avait été maudit au chapitre 3, bien lui, il est maudit sur le sol maudit. Les ronces vont pousser maintenant. La terre ne produira plus toutes ses ressources. Il s'est chassé, il sera un vagabond. Et pour ajouter à son inconscience, il demande quoi? La clémence. Seigneur, tue-moi pas. Fais en sorte que je ne meure pas. C'est trop dur à supporter. Il demande la clémence, en voyant les conséquences de ses actes. Il n'y a aucune repentance, seulement la peur des conséquences. En pensant aux conséquences, c'est là qu'il réagit. Aucune repentance, seulement la peur des conséquences. Les versets qui suivent, 16 à 24, nous parlent de cette descendance. On ne lira pas. Mais premièrement, Caïn lui-même, il va se révolter contre les conséquences que Dieu va lui donner. On peut regarder celle-là. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita au pays de Nod, dans l'est d'Éden. Verset 17, « Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte, il mit au monde Enoch. Il construisit ensuite un champ pour labourer parce que c'est un nomade. » Non, il se construit une ville. Dieu lui a dit quoi? « Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Il dit, « Il n'y en a pas question. Je me construis une ville. » Il se construit une ville. Tout le reste du texte va nous parler de quoi? De gens qui ne sont pas nécessairement sont loin d'être fous ou malhabiles ou incompétents. Au contraire, nous voyons des hommes et des femmes qui vont être les instigateurs de quoi? Des développements dans l'agriculture, dans les arts, dans les sciences. C'est ça les termes qui sont utilisés. J'ai trois lignes qu'on va développer avec le temps. Trois sphères d'activité. Mais tout cela est caractérisé par la méchanceté, le meurtre et la moquerie. La voie de Caïn, qui mène à la mort, elle va s'amplifier. Il y a plus de monde qui va devenir comme Caïn et elle va aussi s'intensifier. Non seulement le monde va être méchant, mais ils vont être encore plus méchants. Regardez au verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure. Pas parce qu'il a enlevé la vie à quelqu'un, juste parce que j'ai été blessé. Et un enfant pour ma contusion. Si Caïn évangélise 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Quelle arrogance! L'intensité dans le péché. Est-ce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui? Non seulement le péché est là, mais le péché aussi est plus intense. On arrive maintenant à la voie de l'Éternel. On a vu Caïn. Maintenant, regardons. Qui est l'Éternel? Qui est notre Dieu? Comment il agit? Premièrement, il est présent, hors du jardin. Au chapitre 3, la fin du chapitre 3, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Mais j'aime voir que l'Éternel est sorti avec eux. Il ne les abandonne pas. Il est présent. Il demeure présent avec eux. Même dans les pires égarements que nous pouvons connaître, l'Éternel demeure disponible. Il est présent pour ceux qui se tournent vers lui, qui l'invoquent. C'est ce que Ève a témoigné au premier verset aussi. On le voit aussi dans le choix du sacrifice. Alors, Dieu décide de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Il est le maître du jeu. Il est le créateur de toutes choses. Et on voit cette effusion de sang dans le cœur du système sacrificiel de l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, c'est vrai. Hébreux 9, 22 nous dit, « Il y a presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc ça, c'est la vision de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il sait tout, il est tout puissant, il connaît les cœurs, les intentions, les motifs. Il connaît le cœur d'Abel et il connaît le cœur de Cain. Et cette réalité, les amis, n'est pas facile à accepter pour des hommes orgueilleux comme nous. De savoir que c'est Dieu qui décide, c'est pas nous autres. Que les règles de nos vies, on pourrait parler de limites, c'est Dieu qui les fixe. Pour notre bien, effectivement, mais c'est lui qui les fixe. Puis ce qu'on voit dans l'homme maintenant, c'est quoi? C'est que je n'ai pas besoin de ces limites-là. Je ne veux rien savoir de toi. On veut vivre notre vie comme on veut, à notre façon. C'est une révolte du cœur que nous vivons. Le Seigneur donne des avertissements, il les enseigne, et c'est pour notre bien. Il décide des règles, comme j'ai dit, mais il les enseigne aussi, il les donne, il les répète. Il va dire ça à Cain. « Fais ci, si en revanche tu agis mal, le mal est couché à ta porte. Alors fais attention, change d'attitude. » Il enseigne, il dit quoi faire, il est bon. Il reprend le fautif avec droiture et grâce. Il donne des avertissements. Comme les parents donnent des consignes à leurs enfants, ils communiquent les conséquences aussi. On fait la même chose avec nos enfants. Il a de l'intérêt pour l'homme et la femme, même quand ils commettent les crimes les plus horribles. Qu'est-ce qu'il fait après le meurtre d'Abel? Il va voir Cain. Il va vers lui. Il ne l'abandonne pas. Il est là. Il est présent. C'est fou. Dieu est présent même dans les pires atrocités de la vie. Il est toujours disponible. Il ne tourne pas son regard envers l'homme et la femme qui veut venir à lui. Il cherche le pécheur. Cain va tuer son frère. Dieu est encore là pour lui permettre de confesser son péché. Et c'est le but des questions qu'il lui pose, comme on a vu tantôt. Alors que la voix de Cain, c'est quoi? C'est le remords. On l'a dit tantôt, les émotions, beaucoup de frustration. La voix de Christ, la voix de l'Éternel dans notre texte, et la voix de Christ aussi, c'est quoi? C'est la repentance. C'est change d'attitude. Prends la décision de changer. On n'est plus dans les émotions, on est dans les décisions, plus dans l'intellect. Choisis. Cain va répondre au jugement de Dieu, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Il y a de la tristesse dans sa voix, mais c'est l'angoisse du remords, pas du repentir. Et lorsque Cain a résisté à la repentance, bien, il passe aux côtés de la voie de Christ, que Paul va décrire dans chapitre 2 de Romains. Il va rappeler que « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité en parlant de Dieu, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. » Regarde la bonté de Dieu pour changer, parce que Dieu t'aime. Il entend le cri du sang. J'ai une note d'un commentateur ici qui m'a frappé. C'est l'une des phrases les plus monumentales de la Bible. Elle ne nécessite aucune explication et conserve sa validité à travers les siècles pour chaque génération. Le mot le plus important de la phrase, j'étais surpris, c'est pas le sang. C'est « à moi ». Le sang a crié jusqu'à moi. C'est l'Éternel qui a entendu le cri du sang d'Abel qui coulait dans la terre. Il y a peu de choses qui sont dites sur la vie d'Abel. Hein? Très peu de choses. C'est les versets qu'on vient de lire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites sur sa mort, par contre. Jésus va parler d'Abel comme étant l'objet du premier meurtre, l'objet du premier martyr aussi. Il reconnaît la mort et l'importance d'Abel. Et aussi, dans le Nouveau Testament, on a ce type, hein, cet exemple en Abel de la mort de Christ. Hébreux chapitre 12, verset 24, on s'est approché. Il fallait avancer. Il reste une ou deux. C'est la citation de 12, 24 de Hébreux. Jésus, on s'est approché de quoi? Je l'ai lu tantôt. Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Porteur, le sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. C'est le sang d'Abel, ça. C'est pas le sang de son sacrifice là, qu'il avait fait au début. Là. C'est sa vie qui a donné sa mort. La mort de Jésus. Écoutez, si Dieu a entendu le cri du sang d'Abel, à combien plus forte raison il a entendu le cri du sang de son propre fils qui est mort pour nous? Il a entendu ce cri-là et il l'a accepté. Il dit, voici le jugement du péché. Ce sang qui nous couvre d'une multitude de fautes. Quand ça dit dans Hébreux, meilleur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Oui, le message, il est meilleur. Parce qu'il couvre la multitude des péchés. C'est le sang du Fils de Dieu qui a été entendu par le Père. Il use aussi de grâce, même quand le coupable ne le mérite pas. C'est pas vrai que Caïn ne méritait pas la mort. Au chapitre 9, il va dire, celui qui met quelqu'un à mort sera lui-même mis à mort. Mais ici, il incline son cœur favorablement pour épargner la vie de Caïn. Mais il y a des conséquences. Caïn est chassé loin de sa présence. Il va porter les conséquences de ses actes. Alors que la voix de Caïn est une voix de violence, la voix de Christ est quoi? La voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est le pardon. Ce texte nous révèle la profondeur de l'amour de Dieu. Comment Dieu aime le pécheur. Comment Dieu aussi va répondre à la peur de Caïn, non par la justice, mais par l'amour, par la miséricorde. Aujourd'hui, peut-être que vous savez, que vous pensez incapable de vous présenter devant Dieu, que vos péchés sont trop grands, peu importe. Même si vous êtes au Seigneur, peut-être que vous dites, « Ah non, aujourd'hui, ça ne marche pas. » C'est un bon sentiment, mais rappelez-vous que Dieu peut vous accueillir n'importe quand. S'il a pu accueillir, s'il a pu aller vers Caïn, s'il a pu aller vers cette Samaritaine et dire, c'est moi le Messie, bien, il peut nous accueillir tous et chacun, peu importe qui nous sommes. Il accorde sa grâce aussi souveraine à l'humanité. Les versets qui nous parlent de cette généalogie qui va suivre, c'est la grâce universelle de Dieu. Dieu donne des compétences, Dieu donne l'intelligence, Dieu donne le souffle de vie à des hommes et des femmes qui peuplent aujourd'hui la terre. Et on arrive à la conclusion. Il pourvoit. Dieu pourvoit. Et là, je vous ramène dans Genèse chapitre 4, et on va lire les derniers versets de ce chapitre, verset 25. Ça fait écho au premier verset. Okay? Les deux se font écho. Verset 1, verset 25. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils. Elle l'appela Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Alors, le début de l'histoire nous laisse entrevoir un gâchis, c'est vrai, mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une option. Dieu pourvoit. Et il va pourvoir avec Seth à une nouvelle descendance. La lignée d'Adam connaît un nouvel espoir avec la naissance de Seth. Et on voit dans ce texte-là que Dieu prépare le chemin pour que l'humanité vienne à la repentance. Dans notre histoire à nous, on voit même qu'elle va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. On a en prémisse ce peuple racheté qui adore Dieu. Invoquer, c'est ça. Ils deviennent des adorateurs de Dieu. Cette lignée-là, ils vont s'intéresser à Dieu, ils vont suivre Dieu, marcher dans ses voies. Ève a dit, dans le chapitre 1, « J'ai fait un homme avec l'aide de Dieu. » Verset 24, « Dieu m'a donné. » Dieu m'a donné un fils. Si vous pensez qu'Ève n'avait pas la foi, je pense qu'on fait une erreur. Dieu lui a donné un fils. Elle sait, et c'est dans sa tête, c'est lui qui peut peut-être remplacer Abel pour sauver l'humanité. Il y a une réalité spirituelle là-dedans de ce peuple qui se lève pour adorer Dieu. Ça va avoir un écho à la fin des temps, lorsqu'on sera dans le ciel, où on aura tout ce peuple qui sera des adorateurs, mais aussi aujourd'hui, Sainte-Marie-de-Beauce, nous sommes de cette lignée spirituelle qui sont des adorateurs de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait la foi, encore, dans notre histoire. Et Dieu a pourvu. On va prier. Notre Dieu, merci pour ce texte intéressant, merveilleux, pas toujours beau à lire, avec le meurtre d'Abel, mais on est reconnaissant, notre Dieu, que tu es présent dans cette histoire et que tu pourvois à un renouveau. Tu pourvois, Seigneur, à une suite positive. Tu restaures la pensée d'Éden avec la naissance de Seth. Merci pour avoir accompagné ces parents-là qui étaient certainement détruits en voyant leur fils Caïn mettre à mort Abel. Merci pour leur foi. Alors, Seigneur, merci maintenant de ce que tu es dans nos vies, ce que tu nous permets de nous présenter devant toi, peu importe les conditions de nos vies, que tu nous permets de t'adorer aussi en assemblée, en communion. Et on veut, notre Dieu, continuer à le faire, être participatif, penser à ceux qui nous entourent, à être des gardiens de nos frères, de nos sœurs. Alors, Seigneur, donne-nous de te servir avec droiture, intégrité et zèle, Seigneur, pour toi. Merci encore pour l'accueil de l'Assemblée ce matin. Bénis-les. Au nom de ton Fils. Amen. Merci.